Alors, Philippe vient de commencer ce culte en nous posant une question. Qui sommes-nous venus rencontrer? Et je vous propose de continuer à méditer cette question sous un autre angle, mais c'est la même question. La question de ce qui nous attendons, quel type de Dieu nous espérons, quel type de Dieu nous imaginons. Et c'est la question qui est au cœur du texte que beaucoup de chrétiens vont méditer aujourd'hui, c'est le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux. Et c'est le récit d'un épisode de la vie de Jésus qui porte aussi toute la charge de l'attente. Un peuple qui attend un Messie, mais quel type de Messie? Et pour nous aujourd'hui, quel type de roi? Quel type d'intervention? Quel type de Dieu imaginons-nous? On va prendre le temps de rentrer dans ce texte. La façon, vous savez, dont un chef d'État prend ses fonctions, en général, on dit beaucoup sur le type de dirigeant qu'il va être. Et j'ai pensé plutôt à la façon dont Emmanuel Macron, en 2017, avait choisi de se présenter seul devant la pyramide du Louvre. Il y avait une entrée avec l'hymne à la joie derrière. C'est une évocation de certains grands chefs d'État avant lui, François Mitterrand, etc. Puis l'hymne à la joie qui renvoyait à l'Europe. Et donc, une façon de donner une image, voilà, un jeune leader prêt à assumer l'héritage du pouvoir, la solitude du pouvoir, l'ouverture, etc. On pense plus récemment, dimanche dernier, à la façon dont le nouveau maire de Paris est arrivé à la mairie. Ça fait aussi il y a eu un gros impact médiatique. Il est arrivé en Vélib. C'est choisi. La façon dont quelqu'un, un responsable, prend ses fonctions dit quelque chose de la façon dont il va exercer le pouvoir. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce que fait Jésus ce jour-là, au moment où il va rentrer dans Jérusalem. Il met en scène avec soin la façon dont il veut rentrer dans la ville pour la dernière fois. Jésus est venu souvent à Jérusalem, mais c'est sa dernière entrée. Et là, cette semaine, c'est un secret pour personne, on va rentrer dans ce qu'on appelle la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine où on va méditer les derniers temps de la vie de Jésus avant sa crucifixion. Vendredi, on se retrouvera pour méditer la crucifixion avant de célébrer la joie de la résurrection. Et donc là, Jésus rentre et c'est la dernière fois. Alors, écoutons ce passage. J'ai choisi la version de Marc 11. Alors qu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, et sitôt que vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, il le renverra ici tout de suite. » Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils lui répondirent « Comme Jésus l'avait dit » et on les laissa aller. Ils amènent à Jésus l'ânon sur lequel ils lancent leurs vêtements. Il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Il entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout regardé comme il était tard, il sortit vers Béthanie avec les douze. J'arrête ici ma lecture de la parole de Dieu. Hosanna. Voilà un mot que nous chantons régulièrement. Beaucoup de nos cantiques comportent ce mot hébreu qui signifie en substance « sauve, accorde-nous le salut ». C'est ça que ça veut dire, Hosanna. Et souvent dans les cantiques, nous nous mettons à la place de la foule qui accueille le roi, le sauveur. Et on fait une transposition spirituelle dans ces chants et nous devenons le nouveau peuple de Dieu qui accueille Jésus sous la forme de son esprit. Et c'est comme si rentrer dans non plus dans Jérusalem, mais dans l'Église, dans le culte. Et nous chantons Hosanna comme une prière de foi, d'espérance, n'est-ce pas? On dit, voilà, viens nous sauver, viens te manifester avec puissance dans notre culte. Et puis, en disant ça, nous annonçons aussi notre attente du retour de Jésus. Mais soyons bien conscients, en tout cas, tout ça c'est très beau, et il n'y a aucune remise en question de cette transposition-là, qui est tout à fait pertinente, je crois, mais soyons bien conscients que c'est bien loin de ce qui s'est passé, probablement, en le jour des rameaux, en réalité. Parce que c'est plutôt un grand malentendu qu'on assiste à ce moment-là. Tellement il y a un décalage entre ce que les gens comprennent de l'événement sur le coup et ce que Jésus est en train d'exprimer en rentrant sur un âne. Le message qu'il envoie sur justement le type de roi qu'il va être. Il y a un énorme décalage. Et dans la foule, ce jour-là, on pourrait dire qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a certainement tout un groupe de gens qui ne voient là plutôt qu'un pèlerin parmi d'autres qui rentre sur un âne. Bon, c'est l'original, il rentre sur un âne, mais c'est un pèlerin parmi d'autres. Il faut être conscient qu'en cette période de Pâques, la ville est pleine de pèlerins juifs qui affluent de tous les recoins, toutes les régions en fait de l'Empire romain pour célébrer dans le temple de Jérusalem. Et la ville, c'est vraiment un élément qu'il faut avoir en tête quand on pense à tout ce qui se passe avant la crucifixion, parce que ça explique, en tout cas, beaucoup la tension qu'il y a, la pression que subissent les chefs religieux, la peur des désordres, la façon dont les Romains vont aussi se précipiter pour faire exécuter Jésus, c'est que la ville est pleine à craquer et c'est électrique. J'y reviens. Et donc, il y a plein de pèlerins qui viennent, qui rentrent toute la journée, et il est d'usage de les accueillir en leur criant « Hosanna ». Comme aujourd'hui, on crierait « Vive les pèlerins !» Vous voyez, on se met au bord, on dit « Allez !» Parce que c'est la joie, en fait. On est heureux de venir là. On a chanté un jour dans tes parvis. À l'époque, Dieu se rend encore présent, en tout cas, c'est ce que les humains savent, dans ce temple. Pour s'approcher de Dieu, il faut rentrer dans le temple. Donc on vient voir Dieu. Du coup, là, on pourrait dire que ça, il y a une partie des gens qui sont là, ils sont enthousiastes, mais ils sont pas enthousiastes spécifiquement pour Jésus, parce que c'est la fête, c'est l'ambiance. Et ils voient un pèlerin rentrer. Ils ont pas compris. Mais il y a quand même tout un nombre qui acclame certainement Jésus avec enthousiasme parce que sa réputation le précède. Et même qu'il est en train de faire naître de grands espoirs. Juste avant, dans les versets précédents, Marc raconte comment Jésus a guéri l'aveugle Bartimée. Et la guérison de l'aveugle est racontée de différentes façons dans les différents évangiles. Parfois c'est Bartimée, des fois il est pas nommé. Mais cette guérison a eu un impact considérable, ça on l'imagine, hein. Un impact très très fort sur les foules. Et donc, la rumeur se répand que peut-être le Messie est là. Ce Messie dans les Écritures disent qu'il doit être fils de David. Et justement, c'est comme ça que Bartimée a appelé Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et c'est aussi comme ça que, dans la foule au port de Jérusalem, certains se mettent à crier, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père. Ils sont là dans la foule et eux, ils sont en train de se dire, ça y est, il est là, c'est lui. Et Marc indique aussi que beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et là, on a une référence direct à un épisode dans le livre des rois, c'est un moment où Jéhu, qui est un personnage assez puissant, qui a un rôle très violent d'ailleurs, est acclamé roi et il s'avance les armes à la main pour tuer Jézabel en fait et tous les siens et reprendre le pouvoir. Et Jézabel, c'est une reine idolâtre terrible, donc finalement il y a une espèce de libération par la force. Avec même, j'ose le mot, une purification, mais pas... En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Et donc, la foule qui étend les vêtements sur le passage de Jésus est en train, clairement, et consciente, enfin, les gens qui font ça, ils sont conscients qu'ils sont en train de dire, ça y est, là, le nouveau Jésus est là, il vient nous libérer. Et il y a un texte de l'époque qui exprime clairement cette attente-là. C'est dans les psaumes de Salomon, c'est partie de ce qu'on appelle les écrits apocryphes. « Seigneur, suscite-leur un roi fils de David. » Ceins-le de force pour qu'il brise les princes injustes, qu'il purifie Jérusalem des nations qui la foulent et la ruinent, qu'il extermine toutes les nations impies d'une parole de sa bouche. Donc, ceux qui jettent leurs vêtements affirment qu'ils reconnaissent en Jésus un Messie puissant qui va enfin chasser les Romains du pays, rétablir la puissance politique d'Israël. Tout le monde vit dans la nostalgie du royaume de David, à l'époque où David avait établi un royaume très, très, voilà, étendu. Et dans beaucoup de textes de l'époque, on perçoit cette effervescence qui a même un goût de fin du monde. C'est-à-dire que Jésus arrive dans un contexte dans lequel beaucoup de Juifs attendent, en fait, que Dieu vienne établir son royaume et juger le monde. Et donc, derrière, certains sont même prêts à lancer une grande révolution qui pourrait faire advenir ce royaume-là. Et donc, ces éléments sont là, et même parmi les disciples de Jésus, vous savez, des apôtres que Jésus a choisis viennent de ces mouvements-là, ceux qui utilisent la force armée en espérant faire advenir le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus est ce type de Messie-là? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il l'amène, pardon? Évidemment, je crois que notre foi rentre un peu en conflit avec cette image d'un Messie qui viendrait massacrer une partie des humains pour en établir une autre. Avec un peu d'attention, la foule aurait perçu que quelque chose ne collait pas. Jésus, donc, est assis sur ce fameux ânon. Et ce n'est donc ni un détail, ni un hasard. J'ai dit tout à l'heure que c'était calculé. Et c'est pour cela qu'au début du passage, Marc prend le temps de raconter en détail toute la façon dont l'ânon est choisi, comment ça se passe, si vous y allez, vous allez dire ça, etc. C'est parce que c'est une façon de dire Jésus a tout prévu. Et Jésus, c'est un metteur en scène ici. Et c'est pas la première fois, il va continuer à le faire après. Rien n'est improvisé. Et Jésus, lui, il a choisi cet ânon parce qu'il veut envoyer un message au peuple, et un message qui vient aussi des prophéties, mais qui va chercher dans une autre tradition. Il y a une autre tradition qui est là, vient directement des écrits qu'on considère comme inspirés, pardon, c'est chez Zacharie, Zacharie 9, qui annonce lui aussi un Messie. Mais voilà le Messie en question. Danse de toutes ses forces, de tes forces, ville de Sion. Pousse des cris de joie, Jérusalem. Regarde. Ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de guerre. Et à Jérusalem, il supprimera les chevaux. Il cassera les arcs de combat. Et il établira la paix parmi les peuples. Finalement, on est devant deux types de messie annoncés. Le messie guerrier qui va vaincre par la violence et un messie lui aussi vainqueur, il est victorieux, mais qui lui remporte le combat par l'humilité et qui vient mettre fin à la guerre. Et voilà le type de messie que Jésus veut être et va être. Et c'est ça qu'il est en train de dire ce jour-là. Et il est en train de redire en acte ce qu'il a expliqué à ses disciples juste avant, en Marc 10, au moment où les apôtres sont, donc les 10, ils sont pas encore les apôtres, mais son cercle rapproché est en train de se disputer pour savoir lequel d'eux est le plus grand. Ça, c'est comme quoi, le cœur humain ne change pas. Qui est le plus grand parmi nous? Et Jésus leur dit, ce qu'on regarde comme les chefs des peuples, les commande comme des maîtres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Je trouve que ce passage, il résonne d'une force extraordinaire dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, le rapport au pouvoir et le type de dirigeant qui se lève dans le monde. Voilà le type de règne que Jésus annonce quand il rentre à Jérusalem. Et ce passage vient nous interroger, donc, comme je l'ai dit au début, sur l'image que nous nous faisons, nous, de Jésus-Christ. Comme la foule, ce jour-là à Jérusalem, nous pouvons avoir tendance à projeter sur lui nos propres attentes, nos désirs, nos craintes peut-être. Un Messie vengeur qui vienne juger, qui vienne établir par la force son règne, qui vienne sélectionner ou valoriser une catégorie de gens contre une autre, ou un Dieu de puissance, qui, oui, il est puissant, on l'a entendu dans le texte, mais un Dieu de puissance qui vienne exaucer tous nos désirs, nous garantir le succès peut-être, qui vienne trancher d'un coup la puissance, une puissance là maintenant. Ou bien alors un Messie qu'on craint parce que c'est un juge, et on a appris à redouter, on sait que dans nos vies, ça, on a aussi prié pour ça tout à l'heure, dans nos vies, ben, on a des choses dont on a honte, et si ce Messie vient, qu'est-ce qu'il va faire? Et lui, qu'est-ce qu'il va, comment il va nous déloger? Quel type de roi est Jésus pour nous? Et je crois que cela est s'interroger sur ça est très important parce que ça influence notre foi, bien sûr, ça influence nos actes, et ça influence évidemment notre témoignage. Tout vient de là. Et je trouve que l'actualité nous en donne un triste exemple. Dans son dernier numéro, le journal La Vie, que je vous recommande, fait une analyse extrêmement intéressante de ce qui se passe. Alors, il y a des choses qu'on soupçonne pas parce que forcément, un regard chrétien va mettre le focus sur certains aspects, mais le journal La Vie montre comment derrière les événements actuels au Proche-Orient, autour de la guerre en Iran notamment, on trouve l'attente messianique de certains chrétiens dits évangéliques. Je vais mettre entre guillemets parce que c'est difficile à porter aujourd'hui. Quand on a le même mot sur sa façade, qui sont dans l'entourage du président des États-Unis et qui voient dans ce conflit une façon de faire advenir le règne de Dieu par la force, exactement comme ça se passait à l'époque de Jésus-Christ. Et j'évoque simplement la pasteur Paula White, que nous, entre pasteurs, on en parle souvent, on la connaît depuis longtemps, c'est la conseillère spirituelle du président Trump. On a vu cette photo qui a beaucoup circulé, mais elle anime un peu le bureau de la foi à la Maison Blanche. Et là, elle impose les mains à Donald Trump comme guerrier de Dieu. Et ces gens-là croient en un Messie guerrier qui vient exterminer le mal et l'incroyance par des moyens humains, par la violence. Et ils soutiennent la guerre en Iran, l'extermination des populations à Gaza, au Liban, etc., en pensant sincèrement faire agir pour le Seigneur, participer à une guerre spirituelle, parce que la grande idée de Paula White, c'est qu'il y a des esprits territoriaux, des démons qu'il faut chasser, et donc il faut détruire les populations qui sont là-bas, parce que ça s'oppose à l'Évangile. Bon. Une foi bâtie sur un tel Dieu, on pourrait dire c'est caricatural, et pourtant, nous, en France, on est aussi influencés par ces conceptions-là qui viennent aussi de milieux qui ont beaucoup de moyens et puis qui nous envoient des messages. Et la question, elle nous est posée du coup personnellement. Hein? Même si on se dit, bon, on est très loin, c'est caricatural, mais c'est une réalité aussi objective aujourd'hui. Ça se passe. Mais moi, quel type de Dieu est-ce que j'attends? Quel type de Messie j'attends? Une foi bâtie sur un Dieu vengeur, comme ça, et puissant, ne résiste pas à l'épreuve. Et d'ailleurs, la foule, le jour des rameaux, en est le premier exemple, puisque elle acclame Jésus et elle va se détourner de lui dès qu'il va commencer à manifester autre chose, dès qu'il va décevoir son attente. Une foi qui est bâtie sur l'attente de succès et de réponses puissantes à nos prières ne dure que le temps du succès. Mais quand ça va mal, quand on est dans l'épreuve, que devient ce Dieu qu'on s'était construit? Quand la prière qu'on a proclamée, on en a parlé la semaine dernière, n'est pas exaucée, alors qu'est-ce qui se passe? Et le jour des rameaux, donc, Jésus montre un autre Dieu. Un Dieu qui oppose à l'orgueil du monde un amour humble. Un amour qui s'exprime dans le don, dans le service et même dans la faiblesse, puisqu'il va accepter de se faire faible pour pouvoir nous rejoindre. Mais c'est aussi un Dieu qui, dans sa faiblesse, est fort. Et rapidement, projetons-nous sur ce qui va se passer après son entrée dans Jérusalem. Après son entrée, Jésus va manifester la force de ce Dieu, je sais pas si, hop, voilà, de ce Dieu qui n'accepte pas qu'on fasse obstacle à son amour. Et c'est là où Dieu manifeste sa puissance, pour enlever ce qui nous sépare de lui. Il y a ce petit verset à la fin qui peut paraître un peu étonnant dans le passage. Il entra à Jérusalem dans le temple, quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Jésus fait un repérage rapide avant de mener l'assaut. Parce que ce qui va se passer dans la suite montre que Jésus va attaquer frontalement le système du temple, le système religieux, les chefs religieux, dans ce qu'ils représentent finalement, qui sont devenus d'obstacles à l'accueil du Dieu vivant. Le temple est devenu un lieu de pouvoir, un lieu où on maintient la pression sur les pauvres, un lieu d'exclusion aussi. Ceux qui cherchent Dieu et qui ne sont pas juifs ont une place dans le temple et cette place-là, elle est occupée par les marchands. Et donc, juste après, Jésus va chasser les marchands du temple. Jésus va maudire un figuier aussi. Et c'est la même chose que le fait d'arriver sur un âne, c'est une prédication en acte. En maudissant ce figuier, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre figuier, là, pour... Le figuier représente le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament. Un peuple qui est devenu sec. Donc, il y a une espèce d'interpellation très puissante pour dire, dégagez le chemin du Seigneur, et Dieu vient dans cette humilité, dans un contre-pied, par un chemin que personne n'attend, mais la puissance de ce qui l'amène, elle est au service des humains. Et je trouve ça très très fort, parce que ce que Dieu veut avant tout, c'est nous rencontrer, c'est nous rejoindre, c'est nous trouver, nous libérer et nous amener près de lui. C'est ça qu'il veut. Et c'est pour ça que il est prêt, Jésus sait qu'en confrontant l'ordre politique et l'ordre religieux, ben il va accentuer encore plus le rejet, et c'est ça qui va conduire à la crucifixion quelques jours après. En fait, en rentrant sur un âne, Jésus déclenche, on va dire, il accélère le processus de sa propre condamnation, mais dans la douceur. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est nous rencontrer. Et pour ça, il nous invite aussi, il vient nous travailler pour faire tomber les fausses images que nous avons de lui. Et là, vous entendez peut-être un écho à ce qu'on a médité les deux dimanches précédents. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé le peuple d'Israël 40 ans dans le désert, c'est Moïse qui le dit, pour lui permettre de se défaire de ses idoles, de ses fausses attentes, et découvrir ce Dieu vivant qui prend soin de lui. La semaine dernière, Jésus résiste à la tentation. Et quelles sont ces tentations ? Aller au pouvoir par la puissance, prendre ses raccourcis, faire justement ce que le peuple attendait, utiliser la violence et se désolidariser du Père qui, lui, lui demande de se donner. Et parfois, Dieu nous résiste. Parfois, ouais, Dieu nous résiste et résiste à nos attentes pour mieux se révéler tel qu'il est vraiment. Comme Jésus résiste ici aux attentes de la foule pour se révéler comme le roi de paix qu'il est en vérité. Et donc, c'est par le don de lui-même que Jésus a établi la paix entre les peuples, comme l'annonçait Zacharie, qu'il a brisé l'arc. Et j'ai envie de dire, pour conclure, que même si Jésus règne au-dessus de toute création aujourd'hui, même s'il est effectivement à la droite du Père, il n'est pas descendu de son âne. Il reste le roi humble et doux, ce frère qu'on a chanté aussi, un sauveur qui nous comprend, le prince de la paix. Et c'est par la paix, par l'humilité, par la douceur, par l'abaissement, par le service des autres, qui nous invite à faire advenir son royaume dans le monde. Par l'amour et jamais par le rejet. Alors, prenons du temps, prenons du recul sur le Jésus que nous imaginons et prenons le temps de le rencontrer tel qu'il se révèle dans les évangiles. Et c'est ce que la Semaine Sainte nous propose de faire. J'en préparerai des petites méditations pour la semaine, qu'on puisse prendre des épisodes des évangiles de cette dernière semaine-là de sa vie. Une occasion de continuer à essayer de mieux le découvrir tel qu'il est, pour mieux l'aimer et mieux le servir. Amen.